avec moi. Regardez ce qui se passe au verset 41. Et ça, c'est la beauté vraiment d'avoir quatre récits sur la vie de Jésus et de voir comment des fois chacun des évangélistes qui ont écrit les quatre évangiles veulent mettre en relief certaines choses, d'accord? Alors, vous avez du verset 28 jusqu'au verset 40, l'entrée triomphale en effet, mais Luc place tout de suite après, d'accord? Dans les évangiles, on n'a pas toujours la séquence immédiate des choses. Leur manière de présenter l'histoire ne demandait pas toujours qu'on ait exactement la séquence. Et donc, Luc place tout de suite après ce moment où Jésus pleure sur Jérusalem. Parce que lorsque Jésus entre à Jérusalem, il a déjà à l'esprit le moment où il va sortir de Jérusalem. Pratiquement une semaine, jour pour jour, après être entré au milieu des cris, de la louange, monté sur un ânon, accomplissant les prophéties, célébré, pratiquement une semaine, jour pour jour, Jésus va ressortir, non pas monté sur un ânon, mais en portant une croix, va être arrêté, va être maltraité, porter sa croix, puis va être crucifié à l'extérieur de cette ville. Et ça, c'est ce que Jésus a à l'esprit lorsqu'il entre dans Jérusalem au milieu des cris de triomphe et de joie. Alors, qu'est-ce qu'on a à retirer de ce passage-là ce matin? Qu'est-ce que ça peut nous apporter? Ce passage-là nous parle encore de la grandeur de ce roi. Ce roi extraordinaire qui n'est pas seulement grand et qui fait des miracles, mais qui a un grand cœur. Et ce passage-là va soit vous pousser tout à l'heure dans la louange à chanter avec un cœur entier. Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le salut d'Israël, le salut des nations de la terre. Ou encore, ce passage-là va vous pousser à le rejeter, à refuser sa royauté sur votre vie. C'est ce qu'on va voir ensemble. On va prier. Père éternel, on veut te bénir pour cette matinée spéciale pour nous parce qu'on assiste à des baptêmes encore une fois et c'est toujours une joie, Seigneur. Seigneur Jésus, ce matin, on se penche sur ce passage. J'aurais tellement aimé pouvoir m'asseoir avec toi et puis que tu me partages tes états d'âme à ce moment-là. Tout ce que toi tu voyais, tout ce que toi tu savais alors que la foule était en liesse, que les gens étaient en extase de célébrer celui qu'ils reconnaissaient à ce moment-là comme le roi des Juifs, mais qu'ils allaient crucifier quelques jours plus tard. Seigneur, je te prie de venir nous parler ce matin. Viens nous parler de toi, viens nous parler de ton cœur, et de cette paix, cet amour que tu es venu offrir aux hommes. C'est en ton précieux nom que nous prions. Amen. On va écouter la parole de Dieu.
Le passage biblique de ce matin est tiré du livre de Luc au chapitre 19, les versets 28 à 44, dans la nouvelle édition de Genève. Luc au chapitre 19, versets 28 à 44. Après avoir ainsi parlé, Jésus marcha devant la foule pour monter à Jérusalem. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne appelée Montagne des Oliviers, Jésus envoya deux de ses disciples en disant, « Allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché, sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le. « Si quelqu'un vous demande, pourquoi le détachez-vous? » Vous lui répondrez, « Le Seigneur en a besoin. » Ceux qui étaient envoyés allèrent et trouvèrent les choses comme Jésus le leur avait dit. Comme ils détachaient l'ânon, ses maîtres leur dirent, « Pourquoi détachez-vous l'ânon? » Ils répondirent, « Le Seigneur en a besoin. » Et ils amenèrent à Jésus l'ânon sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et firent monter Jésus. Quand il fut en marche, les gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. Et lorsque déjà ils approchaient de Jérusalem vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples, saisis de joie, se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Et ils disaient, « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. » Quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus, « Maître, reprends tes disciples. » Et il répondit, « Je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. » Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit, « Si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Et il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. »
Merci, Camille. Savez-vous où se trouve votre paix? À ma première lecture du passage, ça m'a tellement touché, cette parole-là de Jésus, ce regard-là qu'il dépose sur Jérusalem. Est-ce que vous savez où se trouve votre paix? Cette semaine, où est-ce que vous avez cherché la paix? Essayez juste de revoir votre semaine. Où est-ce que vous avez cherché la paix? Dieu est venu pour apporter la paix aux hommes. Il l'a fait concrètement dans la personne de son Fils, Jésus-Christ, il y a 2000 ans. Il est venu pour apporter une paix profonde, une paix dans le cœur de chacun, dans notre relation avec Dieu, mais une paix aussi avec notre manière de voir la vie, de voir le monde, de comprendre à quoi ça sert la vie. Une paix qui dure éternellement, qui dure dans le temps. Recevoir cette paix-là demande premièrement de recevoir Jésus. Et Dieu nous l'offre encore aujourd'hui, à tous les jours comme chrétiens. Lorsqu'on ouvre sa parole, quand on va dans la prière, quand j'écoute un frère, une sœur qui est en train de vivre des choses, puis juste dans cette rencontre-là, Christ peut être présent au milieu de nous. Quand je tends la main vers mon prochain puis que je veux l'aider, puis que je veux apporter ce message de paix, quand j'ouvre la bouche et que j'annonce Jésus-Christ, le roi qui est venu apporter la paix. Ce matin, ce qu'on va voir ensemble, puis la question est vraiment pertinente pour tout le monde. Si on est prêt à recevoir de Dieu quelques miracles, si on est prêt à ce que Dieu soit notre conseiller, le sage à qui on se réfère lorsqu'on a besoin d'orientation dans nos vies, est-ce qu'on est prêt à recevoir sa paix en acceptant qu'il est notre roi, chacun d'entre nous? Premièrement, Jésus, le roi Messie, triomphe. Comme je vous dis, Luc est un peu ironique, je ne dirais pas sarcastique, mais Luc est un peu ironique parce qu'il nous donne le récit de l'entrée triomphale de Jésus et tout de suite après, il va nous dire que Jésus va pleurer à chaudes larmes. Mais quand il est en train d'entrer, puis il y a encore un petit détail particulier dans l'Évangile de Luc, ce qu'il nous est dit, c'est que c'est la foule de ses disciples. Lorsque dans Matthieu, il nous est dit simplement que c'est la foule, Luc précise la foule des disciples de Jésus qui croient vraiment qu'il est le Messie, le roi qui est attendu par Israël depuis des siècles, qui avait été annoncé par les prophètes. Cette foule-là est en liesse. Ils sont convaincus qu'ils vont assister dans quelques heures, quelques jours, au couronnement, probablement assisté par les anges, mais au couronnement de leur roi. Et ils le célèbrent, ils sont en fête. Luc 19, 38 nous dit, il disait, « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. » Et ici, les disciples sont en train de citer un verset du psaume 118. D'accord? Les psaumes, c'est un recueil de prières et de cantiques juifs qu'on trouve dans l'Ancien Testament, donc qui ont été rédigés quelques centaines d'années, au plus tard quelques centaines d'années avant que Jésus vienne. Et certains de ces psaumes-là ont des éléments prophétiques, annonçaient ce qui viendrait. Plusieurs d'entre eux sont des prophéties messianiques, annonçaient non seulement ce qui viendrait, mais qu'un Messie viendrait, un Sauveur viendrait. La foule ici est en train de citer ce psaume-là alors qu'il célèbre parce qu'il voit en Jésus l'accomplissement de ce psaume-là. Retenez ça parce qu'on va revenir un petit peu plus loin sur le psaume 118 et les différentes citations du psaume qu'on a dans les passages puis les passages environnants. Ils sont convaincus à ce moment-là qu'ils assistent à l'entrée de leur roi. Puis Jésus est souverain. Souverain dans le sens qu'il est royal, dans le sens qu'il a autorité. Je vais employer l'expression « metteur en scène », OK? Mais voyez pas ça péjorativement comme si c'était une comédie que Jésus jouait, parce que si c'est une comédie, ça serait une comédie pas mal amère. Elle va se terminer sur une croix. Et même ça, il en est l'auteur en quelque sorte, le metteur en scène, parce qu'il l'avait annoncé. Mais à travers son entrée, Jésus est le metteur en scène. Il est souverain. Il annonce à ses disciples, on vient de le lire, il annonce à ses disciples comment ça va se passer. Il dit, OK, les gars, vous allez aller chercher à tel endroit, vous allez chercher un âne et ça se peut qu'on veuille vous arrêter. Vous direz simplement, le Seigneur en a besoin. C'est la première fois dans tout l'évangile de Luc que Jésus prend ce titre-là pour lui-même, le Seigneur. Il entre de manière triomphale, il sait qu'il va être crucifié, mais se présente comme le Seigneur. Il annonce comment ça va se passer. Ça se passe exactement comme ça. Les gens arrivent là, Jésus leur avait dit, si quelqu'un dit, oh, pourquoi tu viens prendre notre nom, t'expliquera. C'est le Seigneur qui en a besoin. Ils vont te laisser partir avec. C'est ce qui se passe. Jésus est souverain. Jésus est le roi. Il est en train de diriger. Les gens chantent et se rappellent tous les miracles qu'ils ont vus Jésus faire à travers ces 3 années-là de ministère. Des centaines, des milliers de miracles qu'ils l'ont vu faire. Les disciples sont complètement fous de joie. Ils sont en train de le célébrer. Jésus est en train d'accomplir des prophéties. Dans Zacharie, dans l'Ancien Testament, toujours un livre prophétique, on lit dans Zacharie 9:9, « Sois transporté d'allégresse, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble. » Les prophètes savaient tellement pas à quel point ils disaient la vérité. Il est humble. Bientôt, il va porter une croix. Il est humble. Il est monté sur un âne, le petit d'une ânesse. Jésus sait ce qui est en train de se passer. Jésus dirige toute la mise en scène parce que les prophéties sont en train de s'accomplir. Alors même qu'il est en train de le faire, on voit qu'il est au contrôle de tous les éléments, parfaitement au contrôle. Il est Seigneur. Il est Seigneur. Et la foule est en liesse, la foule est en train de crier, ils sont super excités. Regardez bien qu'est-ce qui est écrit au verset 37. Et lorsque déjà il approchait de Jérusalem vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples saisis de joie se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'il avait vus. Il disait, « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. » La foule des disciples, à ce moment-ci, est convaincue que Jésus va être couronné roi. Et ils sont en train de le célébrer pour tous les miracles qu'il a faits. Si vous aviez fait une petite entrevue, un petit reportage journalistique, une fois que Jésus est entré, vous restez avec ceux qui ramassent leurs vêtements par terre, vous leur posez des questions, vous dites, est-ce que c'est clair pour vous que c'est le roi? Oui, c'est le roi. Est-ce que tu es prêt à le suivre? Si c'est ton roi, il va falloir que tu le suives, il faut que tu l'honores, il faut que tu lui obéisses à quelque part. Oui, je suis prêt à donner ma vie pour lui. Mais quelques jours plus tard, Jésus va être seul, abandonné de tous. Est-ce que les disciples sont vraiment prêts à accueillir Jésus comme roi? Ils le célèbrent pour ses miracles au moins. Ça, ils les ont tous accueillis. Ils ont accueilli tous les miracles de Jésus. Qui accueillerait pas? Je veux dire, sérieusement, là, si tu pouvais dire n'importe quelle prière à Dieu maintenant, puis Dieu te l'accordait, tu dirais non? Tu crois même pas à Dieu. Dieu n'existe même pas dans ta tête. Mais il veut t'accorder de quoi? Tu vas dire, ah non, c'est parce que je ne crois pas en toi. Tout le monde accueille les miracles de Dieu, non? Quand on prie, puis Dieu répond à nos prières, puis Dieu fait des belles choses. Tout le monde est là pour accueillir ça. Maintenant, il y a une autre clique qui est différente juste dans le passage ici. Ce sont les chefs religieux, les pharisiens, ceux qui font de plus en plus opposition à Jésus, ceux qui vont vraiment tramer tout ce qu'ils peuvent sur le plan politique. Ils sont déjà en train de placer leur pion pour pouvoir renverser ce prétentieux-là qui dit être roi. Ils reconnaissent en lui quelque chose d'important, par exemple. Regardez comment ils l'interpellent. Verset 39. « Quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus, « Maître, reprends tes disciples. » Maître dans le sens de docteur, enseignant sage, grand sage. Moi, je pense que si Jésus était venu à cette époque-là et qu'il avait dit, je vais vous aider à comprendre la parole, je vais vous apporter la sagesse, je vais vous apporter la sagesse d'en haut, sans jamais prétendre être le roi, je pense que les pharisiens et les docteurs l'auraient accepté. Parce que quand Jésus ouvrait la bouche et expliquait les Écritures, il les expliquait comme aucun homme avant les avait expliquées. Tu ne pouvais pas te battre contre ça. Il y avait une sagesse incroyable. Aujourd'hui encore, les gens, partout sur la terre, des millions de personnes, chrétiens ou non, considèrent les paroles de Jésus comme des paroles d'une sagesse incroyable. Et donc, ils sont prêts à accueillir la sagesse de Jésus. Complètement révolutionnaire dans le regard sur l'homme, dans ce qu'il nous révèle sur Dieu, dans ce qui est la sagesse profonde, dans sa capacité d'aimer tous les êtres humains sans catégorie, d'aller vers celui qui est abandonné, de révéler les hypocrisies de nos cœurs, les mensonges dans nos cœurs. Jésus est infiniment sage. C'est clair, encore aujourd'hui, tant de gens reconnaissent sa sagesse. Les disciples, prétendait qu'il le reconnaissait comme roi, mais je pose la question, est-ce que vraiment il l'accueillait comme roi? Quand tu as un roi, puis ton roi te dit « va à la guerre », tu vas à la guerre. Quand ton roi te dit « voici la loi », tu suis la loi. C'est le roi. Est-ce qu'ils sont vraiment prêts à l'accueillir comme roi? Est-ce que moi, je suis vraiment prêt à l'accueillir comme roi tous les jours, lorsqu'il me dit « ta paix se trouve là, ta paix se trouve ici ». Je pense que les pharisiens étaient même prêts à l'accueillir comme un sage, quelqu'un à consulter, quelqu'un à écouter. Eux, dans leur cas, c'est super clair, ils n'étaient pas prêts à l'accueillir comme roi. Ils disaient, « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. » Jésus, le roi Messie, triomphant. Jésus, c'est aussi le roi qui pleure. Le roi qui pleure. Regardez avec moi le verset 41. Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle. Le terme qu'on a ici, c'est pas que Jésus a versé une grosse larme, OK? Il n'y a pas de cynisme en Jésus ici. Le terme employé parle de sanglots, parle de pleurer à chaudes larmes. C'est super important d'entendre ce que Jésus dit ici. Je vais vous citer un autre passage plus tôt au chapitre 13. Si vous pensez connaître Dieu en le définissant comme le Dieu d'amour, mais non pas le Dieu de justice, vous ne connaissez pas Dieu. Si vous pensez connaître Dieu en le définissant comme le Dieu juste et saint, sans saisir à quel point Dieu pleure sur l'humanité actuellement, vous ne connaissez pas Dieu. Vous ne connaissez pas le Dieu de la Bible. Et une des plus belles choses que Jésus a faites pour nous, c'est qu'il est Dieu le Fils, puis en s'incarnant, il nous a ouvert une fenêtre pour accéder au cœur de Dieu. Dans un langage qui est plus concret pour nous que simplement des paroles et des prophéties, parce qu'il l'a incarné avec son être. Il s'est incarné. Et donc, il est venu nous parler dans un langage humain, dans un langage qu'on visualise, puis on saisit très bien où il est. Jésus, ce jour-là, alors que la foule de ses disciples est en liesse, dans son cœur pleure toutes les larmes de son corps. Et pleure physiquement, à chaudes larmes. C'est ce que le passage me dit. Parce que Jésus aime Jérusalem. Parce que Christ aime les hommes. Quand vous entendez parler du christianisme, puis vous entendez dire qu'un jour Dieu va juger les hommes, vous dites, mais c'est quoi ce Dieu-là? C'est l'expression de sa justice et de son amour. Dieu aime au point de mourir sur la croix. Et Dieu est juste au point d'aller mourir sur la croix. Jésus-Christ est allé mourir sur la croix. Dieu, dans la personne de son Fils, est allé mourir sur cette croix. Dieu pleure actuellement sur l'humanité. Ça va bien au-delà de Jérusalem. Bien au-delà de Jérusalem. Mais regardez premièrement ce qu'il avait dit au chapitre 13, verset 34. Jérusalem. Jérusalem qui tue les prophètes, qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants? Comme une poule rassemble ses couvées sous ses ailes. Et vous ne l'avez pas voulu. Voici, votre maison vous sera laissée. Je vous le dis, vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous disiez, « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » Est-ce que vous reconnaissez le passage? Psaume 118. Psaume 118, on y revient tout à l'heure, d'accord? Avant que je devienne chrétien, dans les 6 à 8 mois avant ma conversion, d'accord? Je me suis converti 18-19 ans, dans les 6 à 8 mois avant ma conversion. Plus je m'approchais de ce moment-là, où j'allais simplement abdiquer, plier le genou devant mon roi, plus j'approchais de ce moment-là, plus je savais que j'étais visité par Dieu, puis que Dieu me poursuivait. À travers des circonstances dans ma vie où je faisais des conneries, mais Dieu me faisait grâce, me préservait. À travers des gens qui m'exprimaient l'amour de Dieu lorsque je ne le méritais vraiment pas. À travers l'accueil que j'ai eu chaque fois, parce que je venais à l'église à cette époque-là, une fois au 1000-1000, puis chaque fois que je serrais la main des gens qui étaient à la porte, ces gens-là, l'église était pas mal plus petite, hein, ils connaissaient mon histoire. À chaque fois, j'étais accueilli avec amour. Je savais que j'étais visité par Dieu et que Dieu me poursuivait. J'ai vu ce pattern-là se répéter dans la vie de personnes pour qui je prie depuis des années. Si ces gens-là rejettent Dieu jusqu'à leur mort, Dieu pourrait m'appeler à la barre des témoins, n'importe quand. Si ces gens-là osaient porter une accusation contre Dieu pour dire « Mais t'étais où? T'as jamais couru après moi, t'es jamais venu me voir, je comprenais pas. » Dieu pourrait m'appeler n'importe quand à la barre des témoins et dire « Yannick, raconte-nous l'histoire de ta prière pour ces gens-là. » Toutes les fois où clairement t'as vu que Dieu les visitait puis Dieu les interpellait. Ces gens-là, je les aime. Ça me fait trembler parce que je sais. Je sais combien de fois Dieu les a visités. J'ai été témoin d'un paquet de fois où Dieu a répondu à mes prières puis a envoyé des gens pour leur parler de lui, il a préservé leur vie, il leur a témoigné. Il y a un moment où Dieu arrête de visiter. Je ne sais pas où est-ce que tu es, toi. Regardez bien ce que l'apôtre Paul nous dit dans 1 Timothée. Lorsqu'il nous demande à nous, chrétiens, de prier pour tous les hommes, voici ce qu'il dit. « Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Il est où Dieu? Qu'est-ce qu'il fait? Il envoie ses enfants partout témoigner. Est-ce que tu écoutes? Est-ce que tu veux entendre? Est-ce que tu veux même entendre? Moi, je ne voulais pas entendre. Puis Dieu a insisté, puis a été patient, puis a été gracieux. Le même passage se poursuit en disant, « Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, par qui est donné, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. » C'est là le témoignage rendu en son propre temps. On est à quelques jours de cette arrestation, de cette crucifixion lorsqu'on est ici dans Luc 19. Qu'est-ce que Jésus attend comme réponse? C'est quoi les deux plus grands commandements? Le premier, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. Qu'est-ce que Jésus-Christ attend comme réponse lorsque je veux l'accueillir comme roi? C'est simplement ça. Que les louanges de ma bouche lorsque je viens chanter le dimanche soient les louanges qui viennent de mon cœur. pendant la semaine, que ce soit des louanges qui sont là dans mon cœur. Lorsque je consulte sa parole et que je veux savoir ce que mon roi, ce que mon maître, ce que mon sauveur veut que je fasse cette semaine, comment il veut réformer des choses dans mon cœur, dans ma vie, simplement que ce soit encore un cœur de louange qui soit là pour l'accueillir. Tout ce que Jésus veut, c'est un cœur entier et vrai dans cette relation-là. Et les disciples ici croient l'avoir, mais Dieu sonde les cœurs et quelques jours plus tard, ils vont tous l'abandonner, ils vont tous le quitter. C'est vraiment intéressant, je reviens sur le psaume 118. Le psaume 118, c'est un psaume messianique. On va peut-être avoir le temps juste d'aller relire un petit passage dedans tantôt, mais c'est un psaume messianique qui annonce la venue d'un roi, mais d'un roi qui va être rejeté. Puis en réalité, c'est à travers lui que Dieu veut bénir la nation. Et ce passage-là dit, « Voici les louanges qui vont être sur les lèvres de ceux qui vont le reconnaître. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » Alors, quelque temps avant l'entrée triomphale, dans Luc 13, Jésus dit, il pleure sur Jérusalem parce qu'il sait l'accueil réel qu'il va avoir, il ne sera pas accueilli. Quelque temps avant, il cite ce psaume-là et il dit, vous allez être abandonné, Jérusalem, vous allez être quitté. Vous allez être abandonné jusqu'à ce que vous disiez. Et il y a une parole prophétique ici pour ceux qui s'intéressent à l'eschatologie. On a un indice clair que Dieu n'a pas abandonné Israël. Maintenant, jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient du Seigneur. Quelque temps plus tard, la foule, les disciples sont là en liesse et ils le louent, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Le même passage qu'ils vont citer. Mais est-ce qu'ils sont véritablement prêts à le recevoir comme roi? Quelques jours plus tard, ils vont le renier. Jérusalem va tout simplement le rejeter. Ce que Jésus veut, ce que Jésus-Christ veut, ce que Dieu veut de nous, c'est que nous l'aimions de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre pensée. Il veut un dévouement entier, un amour véritable. C'est tout ce qu'il désire de nous, c'est tout ce qu'il attend de nous. Jésus est le roi qui pleure. Jésus est le roi qui pleure parce qu'il sait ce que ça implique de rejeter le roi. Il sait ce que ça implique de rejeter le roi. Voyez-vous, on veut un Dieu qui va tout nous donner, mais à qui on ne devra jamais de reconnaissance. On veut un Dieu qui crée un univers où on va vivre éternellement dans le bonheur, mais on ne veut pas qu'il nous gouverne, on veut gouverner nos vies. On veut un Dieu qui va nous apporter sa sagesse, mais en définitive, on veut la liberté de choisir si sa sagesse est bonne ou si elle est imbécile, si je peux la rejeter. Et si ma vie va mal, ben je le blâme à la fin de tout ça. Parce que c'est un méchant créateur qui a créé un mauvais monde où la vie est vraiment, vraiment poche. Mais Jésus pleure sur Jérusalem parce que Jésus connaît l'histoire, la fin de l'histoire. Et donc, c'est ça qu'il annonce ici. Si vous allez à la toute fin de ce passage-là, versets 43-44. En prononçant ça sur Jérusalem, il dit, « Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront, de tranchées, t'enfermeront, te serreront de toutes parts, ils te détruiront. » Et Jérusalem allait être détruite et renversée en 70, quelque 30, 30 quelques années plus tard, d'accord? C'est ce que Jésus est en train d'annoncer. Et c'est ce qui va se produire. Les Romains vont détruire cette ville-là, vont l'encercler de tranchées comme ils faisaient chaque fois qu'ils faisaient un siège contre une ville. Mais il y a plus que ça encore. Parce que tous les jugements qu'on peut vivre sur la terre de la part de Dieu, en réalité, sont juste là comme des avertissements pour nous préparer pour l'éternité. Pendant toute ma vie, je peux dire, aujourd'hui est le jour du salut. Et à la fin de ma vie, je me présente devant Dieu. Et on va voir lesquels ont choisi Jésus comme roi et lesquels l'ont rejeté toute leur vie. Je vous lis un autre passage, très rapidement. Dans Philippiens 2, 9 à 11. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé après sa résurrection et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Ce que les Écritures nous disent, c'est qu'un jour, le roi va revenir et j'ai pas le temps de m'étirer sur ça. Vous prendrez le temps juste d'aller le relire. Juste avant ce passage-là, Luc nous rapporte une histoire de Jésus où, au verset 12, voici ce qui est écrit. « Un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. » Il raconte cette histoire-là. Et comme de fait, Jésus ne sera pas intronisé par Jérusalem. Il va être crucifié par les Romains, livré par les Juifs. Mais le troisième jour, il va ressusciter. Et donc, Dieu a élevé son nom. Et aujourd'hui, c'est ce que les chrétiens croient avec fermeté. Christ règne à la droite du Père. Mais nous croyons aussi que Jésus reviendra un jour. Que ce monde-là, où il y a tellement de souffrance, que vous trouvez que ça ne fait pas de sens, mais Dieu est d'accord, ça ne fait pas de sens. Ça ne fait pas de sens, puis ce n'est pas comme ça que Dieu l'avait designé la patente. Et voilà, l'homme s'est rebellé, l'homme a péché, et Dieu le poursuit. Dieu le poursuit avec sa grâce. Et il l'invite à remettre sa vie en ordre, en abdiquant devant le roi, en venant servir le roi, en venant l'honorer dans son cœur. Maintenant, que je le fasse ou non, un jour ce roi-là va revenir. Et lorsqu'il va revenir, tous les genoux vont fléchir. Tous les genoux vont fléchir. Parce qu'il n'y aura plus de discussion, il n'y aura plus d'astinage. Les pharisiens ne seront pas là pour dire « Ah non, je ne crois pas en toi. » Mais seuls ceux qui, de leur vivant, l'ont accueilli dans leur cœur, seuls ceux-là seront avec lui dans la gloire pour l'éternité. Les Écritures sont super claires sur ça. C'est difficile pour nous d'accepter de reconnaître un souverain sur nos vies. Puis il y a quelque chose qui est super beau dans tout l'humanisme, puis les courants actuels où on voit que l'être humain comme cherche à aller au maximum, à son plein potentiel. Puis honnêtement, moi, ça me fascine. J'aime voir ce que l'homme fait, ce que l'être humain construit, puis le génie que Dieu a donné à l'être humain. Je trouve ça extraordinaire, autant dans les arts, dans le sport, dans la science. Je trouve ça vraiment phénoménal. Mais il y a quelque chose en même temps qui est là, qui est derrière tout ça, qui est cette idée que seule la raison humaine doit dicter ma vie. Et en définitive, pas seulement la raison des hommes, si à tout le moins c'était la sagesse de tous les hommes, mais non, seulement ma raison doit dicter ma vie. C'est extraordinairement difficile pour un être humain, aujourd'hui en Occident, d'accepter que Dieu gouverne ma vie. C'est terriblement difficile. Et pourtant, qu'est-ce qu'il venait offrir à Jérusalem? La paix. La paix. C'est ça qu'il venait offrir à Jérusalem. Regardez avec moi, verset 41. « Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit, « Si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. » Jésus est souverain, même dans les derniers moments. Et alors qu'il est en train de se préparer à entrer, puis qu'il fait cette entrée triomphale-là, il sait très bien qu'il y a toute une ironie qui va jouer. Il sait que Jérusalem va le rejeter. Mais ça va être encore possible pour Israël de reconnaître Jésus comme sauveur après sa crucifixion. Jésus sait très bien, alors qu'il est en train de rentrer, monter sur cet âne, dans la ville, que quelques jours plus tard, il va sortir, non pas monter sur un âne, mais en portant sa croix, et juste à l'extérieur des murs de la ville, de cette ville-là qui devait le reconnaître comme son Messie, comme son Sauveur, juste à l'extérieur des murs, il va être crucifié. Et on va lui crier « Imposteur! Imposteur, menteur, fourbe! » Mais tout ça devait s'accomplir. Tout ça devait s'accomplir. Parce que Jésus apporte sa paix. Il nous donne la paix. Si vous voulez essayer de résumer tout l'Évangile, d'accord? L'Évangile, c'est la bonne nouvelle, l'Évangile de Jésus-Christ, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Même, je vous dirais, la bonne nouvelle de toutes les Écritures, c'est quoi? Ça se résume à un mot. Dans l'Évangile de Luc, ça revient constamment. Je n'ai pas le temps d'aller voir tous les passages avec vous. C'est le mot paix. Vous voulez résumer l'Évangile, là? Un mot excellent, c'est le mot paix. Parce que Dieu, à travers la personne de son Fils Jésus-Christ, est venu parmi les hommes pour nous donner sa paix. Faire la paix avec Dieu, notre Créateur. Faire la paix avec Dieu, notre Père, dans les cieux. Faire la paix avec celui qui possède la sagesse, qui comprend le sens de la vie. Faire la paix avec celui qui nous offre d'être dans sa présence pour l'éternité. Mais faire la paix aussi avec moi-même. Parce que tant et aussi longtemps que je ne plie pas le genou devant Jésus-Christ, j'essaie de vivre d'une manière pour laquelle je n'ai pas été conçu. J'essaie de construire et de dicter toutes choses dans ma vie de ma propre manière, seulement avec ma raison qui n'est pas éclairée par cette grâce divine, par les Écritures, par la personne de Jésus-Christ. Et je ne vais pas trouver la paix. Je ne vais pas trouver une paix réelle. Je ne vais pas trouver une paix qui va m'accompagner jusque dans l'éternité. Jésus-Christ est venu mourir sur la croix afin qu'on ait la paix. Et plus tôt dans l'Évangile de Luc, lorsque Jésus a envoyé ses disciples annoncer sa venue dans les différents villages, c'est quoi le message qu'il a donné aux disciples? Il leur a dit, lorsque vous arrivez dans un village, cognez à la porte d'une maison. Demandez s'ils sont prêts à vous accueillir pendant que vous allez séjourner là. Si cette maison-là vous accueille, qu'est-ce que vous dites? Que votre paix soit sur cette maison. Annoncez-leur Jésus-Christ. Annoncez-leur la grâce. Dans le même passage, Jésus dit, s'ils vous refusent, dites-leur, Dieu vous a visité et vous avez rejeté Dieu. Pour celui et celle ici ce matin, qui a plié le genou devant Jésus, on est des messagers de paix. On annonce la paix. Maintenant, des fois, on va être accueillis comme Jésus lorsqu'il est rentré. Des fois, ça va tourner mal comme Jésus lorsqu'il est sorti. Ce n'est pas vraiment important. Notre mandat à nous, c'est d'annoncer la paix que les hommes peuvent trouver en Jésus-Christ. Et une fois que j'ai embrassé la foi en Jésus-Christ, À tous les jours, c'est là que se trouve ma paix encore. Cette semaine, je ne sais pas où est-ce que tu as trouvé ta paix. Tu es fatigué, la journée était difficile, ça a mal été au bureau. Peut-être que tu as trouvé ta paix dans une télésérie sur Netflix avant de te coucher le soir. Pour voir une bouteille de vin avec ta bien-aimée, puis tu as dit, oh, le vin est doux au cœur qui est triste. Tu as trouvé ta paix là? Trouvé ta paix à consommer, je ne sais pas. Où tu n'as pas trouvé la paix du tout. Toutes les choses que j'ai mentionnées ne sont pas mauvaises. Mais pour moi qui suis chrétien, j'ai découvert, je sais où se trouve ma paix. Cette paix-là se trouve au même endroit à tous les jours, à chaque matin quand je me lève, avant de quitter mon lit, dans la prière, je reconnais qui est mon roi. Quand j'ouvre la parole, j'ouvre la parole pour recevoir ses instructions, sa sagesse, ses enseignements. Quand je traverse des moments difficiles, des inquiétudes, des fardeaux qui deviennent lourds, je sais que moi, je ne suis pas souverain, puis je ne peux pas commencer à placer des anons, puis accomplir des prophéties, puis tout ça. Qu'est-ce que je fais? Je vais remettre ces fardeaux-là à mon roi, parce que je sais que lui est souverain. Je m'inquiète pour mes enfants, je les donne à mon roi, parce que je sais que lui est souverain. Dans quelques instants, dans quelques minutes, on va voir deux personnes qui vont se faire baptiser. Ces deux personnes-là, par leur baptême, vont témoigner qu'ils ont plié le genou devant Jésus, qu'ils ont reconnu que Jésus est leur roi, leur Seigneur. Cette semaine, vous allez avoir l'opportunité d'ouvrir la bouche puis d'annoncer le roi, d'annoncer la paix. Faites-le, annoncez la paix, que ce soit bien reçu ou non. Faites-le avec douceur, avec amour, mais annoncez la paix. Et cette semaine, quand Dieu va vous visiter, quand Dieu va vous visiter à travers sa parole, à travers une pensée, lorsque vous jasez avec un frère, ou si ce matin Dieu est en train de te visiter, parce que les baptêmes, les témoignages vont t'interpeller ou le message de la parole, de grâce, fais pas comme Jérusalem, qui n'a pas connu le jour où il était visité par Dieu. On va prier ensemble. Seigneur notre Dieu, je veux te bénir. Jésus, tu es un roi absolument merveilleux. Tu es un roi triomphal, tu es souverain. On le voit dans tous les détails de ta vie. On le voit dans ta sagesse. On le voit dans les prophéties qui s'accomplissent à travers toi. Le psaume 118 nous dit, « La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de cet édifice. » Oui, Seigneur, tu es rentré d'une manière triomphale dans cette ville, mais cette ville ne t'a pas connu, n'a pas connu la paix qui venait vers lui, vers elle. Ils t'ont livré aux Romains, tu as été crucifié, Seigneur. À travers cette souffrance, tu accomplissais notre paix, Seigneur. Tu nous offrais la paix qu'on trouve en toi, dans ton sacrifice sur la croix, en rançon pour nos péchés. Seigneur, je te prie pour chaque personne ici ce matin. Ceux d'entre nous qui savent qu'ils sont visités par Dieu, mais qui hésitent encore. Qui hésitent encore. À abdiquer, à plier le genou devant toi, Seigneur, et à t'inviter vraiment à gouverner, à diriger leur vie, à les instruire, à les guider, à reconnaître en toi le Seigneur. Ce matin, je veux te prier, Seigneur, pour chacun d'entre nous qui avons reconnu en Jésus le roi. Seigneur, viens prendre nos louanges ce matin. Hosanna! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Reçois nos louanges, Seigneur. Et enseigne-nous cette semaine, toute la semaine, à annoncer la paix et à vivre et marcher dans cette paix qu'il y a en toi. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. Amen. Amen.